C'est bon? Bien, nous commençons. Bonjour et donc bienvenue à cette seconde journée. C'est juste, je viens de vous dire de penser à couper vos téléphones portables, ce que je fais aussitôt. Voilà, ça sera fait comme ça. Bien. Alors bonjour donc et bienvenue à cette seconde journée des rencontres, des entretiens du jeu de paume sur la séparation du pouvoir. Nous avons eu une journée bien remplie hier et donc nous allons continuer aujourd'hui avec une journée bien remplie. Ce matin, nous allons être dans le comparatisme en quelque sorte, avec une intervention de Pierre Mélandry, qui est à ma droite, sur le régime présidentiel américain et la séparation des pouvoirs. Ensuite, une approche plus européenne des situations par Renaud Baumer. Et enfin, en conclusion, Guy Carcassonne, qui nous parlera de sa vision de la situation française. Alors, je présenterai chaque intervenant au moment où il parlera. Donc je vous présente Pierre Mélandry. Voici Renaud Baumer qui arrive. Il était allé au château. Et donc nous l'avons tropisme royal, comme dit Jean-Jacques. Pierre Mélandry est historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, professeur émérite à Sciences Po. Il a fait une thèse de doctorat d'État en 1977. Il a été professeur à sciences politiques, nous nous sommes connus dans le temps d'ailleurs, et à l'École normale supérieure, et ensuite à l'Université de Montpellier, quand nous étions nettement plus jeunes. Je cite quelques-unes de ses publications. L'histoire des États-Unis contemporains, Versailles Éditeur en 2008, L'Empire du Milieu, les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide, Prix France-Amérique chez Odile Jacob, Une histoire des États-Unis depuis 65, Harry Nathan. Et j'ai demandé à Pierre Mélandry, je ne cite pas tout le reste puisqu'il y en a beaucoup d'autres, j'ai demandé à Pierre Mélandry d'intervenir sur ce sujet parce que je pensais qu'il était extrêmement intéressant d'avoir non pas seulement le point de vue d'un constitutionnaliste, mais le point de vue d'un historien sur les évolutions du régime présidentiel américain et la séparation des pouvoirs. Je lui donne tout de suite la parole pour son exposé.
Je voulais d'abord dire tout le plaisir que j'ai à être ici et remercier Jean-Jacques Agagon et Yves Michaud de me donner cette occasion d'éclairer quelque peu ce régime présidentiel, d'abord en en étudiant les origines, ensuite en rappelant les fondements et surtout en analysant la dynamique. Alors les origines, c'est très simple, le régime a été créé en réaction à l'échec du premier mode de gouvernement de la Jeune République, c'était les articles de la Confédération qui reflétaient à la fois la volonté des anciennes colonies britanniques propulsées subitement au rang d'État de préserver leur souveraineté et le refus d'anciens insurgés qui s'étaient révoltés au nom des libertés de confier l'exécutif à un homme susceptible de se révéler un jour aussi despotique que le monarque britannique. D'où le choix d'un système confédéral et d'un régime d'assemblée. Le problème, c'est que le système a doublement échoué, puisque sur le plan intérieur, l'impuissance du pouvoir central a bientôt débouché sur une situation monétaire proche du chaos, et sur le plan international, l'absence d'unité, comme celle d'un chef à même de l'incarner, se sont révélées une source inquiétante de vulnérabilité. En sorte que très vite, l'idée s'est imposée d'une révision du système, révision qui a débouché sur l'élaboration en réalité d'une constitution entièrement nouvelle, la fameuse constitution de 1787, dont les concepteurs se sont efforcés de dégager un juste équilibre entre d'un côté leur souci de préserver les libertés et de l'autre leur nouvelle quête d'une plus grande efficacité. Alors, une première mesure a consisté à établir cette fois un authentique pouvoir central doté de réelles compétences tant intérieures qu'internationales. Et pour surmonter les réticences des États à renoncer à une partie de leur souveraineté, on s'est efforcé de concilier les intérêts de ceux qui étaient les plus peuplés et qui, du coup, entendaient davantage peser, et les intérêts des États à la population plus clairsemée qui refusaient de se voir submergés.
On a ainsi conçu, tout le monde le sait, un système législatif bicaméral composé d'une chambre basse, des représentants, où chaque État serait représenté proportionnellement à sa population, et inversement, une chambre haute, le Sénat, où chaque État, qu'il fût grand ou petit, disposerait toujours de deux membres. On a arrêté de même que le chef de l'exécutif serait élu par un collège où chaque État serait représenté de façon équitable. La seconde mesure, en effet, ça a été d'imaginer un exécutif, cette fois assez fort, pour assurer les missions qui lui seraient confiées, mais trop peu pour mettre les fondements de la République en danger, et de le confier à un président, parce qu'un tel exécutif unitaire serait mieux à même d'incarner les qualités de décision et de diligence indispensables à un gouvernement efficace. Enfin, troisième grande innovation, on a jugé bon, sous l'influence des idées de Locke et de Montesquieu, de doubler la séparation verticale des pouvoirs entre État fédéral et État fédéré d'une séparation horizontale, garantissant surtout que chacun des trois pouvoirs se trouvant contrôlé, équilibré par les deux autres, les fameux checks and balances, les freins et contrepoids, aucun ne pourrait jamais remettre en cause les droits naturels des individus et les grandes libertés. Si je reviens maintenant aux fondements du régime présidentiel, je vais passer très vite, ce sont des choses assez connues. La répartition des compétences a été assez classique. Le Congrès a reçu de très larges pouvoirs, tant en matière législative que financière, le droit de déclarer la guerre, le droit de ratifier les traités, en fait réservés au Sénat, mais à la majorité qualifiée des deux tiers, le droit de gérer le commerce avec l'étranger, mais aussi, ce qui était très important, le commerce inter-État, ainsi que le droit de destituer, le fameux impeachment, des membres des trois pouvoirs coupables éventuellement, je cite, de trahison, de corruption ou de crimes et délits majeurs. Le Congrès a reçu plus généralement, et c'est très important, la mission de pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale du pays, et de faire, et je cite encore la Constitution, toutes les lois qui seraient nécessaires pour la réalisation des missions confiées tant à l'État qu'à ses fonctionnaires. Le président a reçu de son côté, outre la responsabilité classique de veiller à l'exécution fidèle des lois et de nommer les ambassadeurs, ministres, juges à la Cour suprême, non seulement les compétences régaliennes traditionnelles, le droit de grâce et le droit d'adresse, mais aussi et surtout des pouvoirs très forts en politique étrangère et en matière de guerre, puisqu'il a été érigé commandant en chef des armées et doté du pouvoir de négocier les traités. Enfin, l'article 3 a prévu que le pouvoir judiciaire, et je cite, serait confié à une Cour suprême et à de telles cours inférieures que le Congrès pourrait de temps à autre ordonner et établir, l'indépendance des juges fédéraux étant garantie par leur inamovibilité. Plus intéressantes pour notre propos sont évidemment les clauses visant à instaurer les fameux freins et contrepoids. Par exemple, s'il s'est vu doté du pouvoir d'arbitrer les conflits de compétences tant entre le pouvoir central et les États fédérés qu'éventuellement entre l'exécutif et le Congrès, le judiciaire dépendait doublement de ces derniers, puisque la création de cours subalternes relèverait du Congrès et que la nomination des juges, y compris à la Cour suprême, dépendrait du président, là encore, frein et contrepoids, sur l'avis et avec le consentement du Sénat. De même, dépendant pour la conduite de sa politique d'un financement que le Congrès pouvait lui refuser, soumis à un pouvoir de surveillance qui est implicite dans l'ampleur des pouvoirs et des missions qui sont confiées aux élus, le président, inversement, s'est trouvé en mesure de convoquer le Congrès, d'attirer son attention sur les mesures qu'il jugerait nécessaires, bref, une sorte de droit d'initiative indirect, mais aussi de s'opposer, nous le savons tous, aux lois votées par le Congrès en brandissant son veto, que seul un vote aux deux tiers dans chacune des deux chambres permettrait de surmonter, et enfin d'influer sur l'exécution des lois par ses décrets. Il a vu aussi son pouvoir de nomination, je le suggérais à propos des juges, subordonné à l'avis et au consentement du Sénat. Remarquons pour terminer que le souci des constituants de garantir un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, selon la formule consacrée aux États-Unis, s'est exprimé tout d'abord à travers l'obligation pour tous les responsables, à l'exception des juges, de se soumettre fréquemment au verdict populaire, tous les deux ans même pour les députés ou représentants. Ensuite, à travers les garanties presque aussitôt assurées à un quatrième pouvoir, la presse, dont la tâche était de permettre aux citoyens de former un jugement éclairé. Enfin, à travers la conviction que l'intérêt général ne pouvait être que la résultante des intérêts particuliers qui furent d'emblée autorisés à s'organiser et à s'exprimer. On comprend déjà les grandes différences entre ce régime et celui qui prévaut actuellement en France. La première, c'est une méfiance instinctive à l'endroit de l'État, perçue moins comme un rempart que comme une menace potentielle pour les libertés. La seconde réside dans la prégnance d'un fédéralisme très éloigné de notre réflexe jacobin. Une troisième résulte du caractère unitaire de l'exécutif. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a même pas à proprement parler de gouvernement, mais simplement une équipe qui assiste le président. On se rappelle la fameuse image de Lincoln consultant son cabinet. Oui, 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 non, les noms l'emportent. Quatrième différence, les deux pouvoirs, exécutif et législatif, sont dans l'obligation de coexister. En aucun cas, en effet, le président ne peut renvoyer les chambres, tandis que le Congrès ne peut pas renverser le président, à moins que celui-ci soit reconnu coupable de crimes et délits importants. D'où la principale faiblesse du système, que vous devinez déjà, c'est le grippage potentiel entre les pouvoirs. Inversement, sa grande force, et c'est là la cinquième et dernière différence, c'est son adaptabilité. Alors que nous ne comptons plus ou presque le nombre de nos constitutions, la constitution de 1787 a traversé les siècles et survécu, y compris à une très sanglante guerre civile, grâce en particulier aux quelques 27 amendements dont elle a fait l'objet, mais aussi aux arrêts de la Cour suprême qui en ont adapté la lecture aux mutations de l'économie et de la société. J'en viens en effet maintenant à la dynamique de ce régime. L'évolution allait notamment être déterminée par trois paradigmes. Le premier, ça a été la métamorphose des États-Unis d'une petite république de fermiers en première puissance post-industrielle, ce qui a contraint le système à s'adapter à une réalité économique, au départ locale, par la suite continentale et aujourd'hui, nous le savons, mondiale, et l'a en même temps soumis à une pression croissante de l'argent, à même d'être déversé sur le système par des intérêts et des lobbies toujours plus puissants. Une seconde source de transformation a été la double évolution du jeu politique. Celui-ci a été transformé d'abord par une démocratisation, sans doute longtemps très incomplète, mais très rapide pour ce qui concernait les hommes blancs, démocratisation qui a très vite débouché sur l'émergence de partis de masse, comme sur l'extension de l'élection au suffrage universel des représentants à bientôt celle du président et début 20e, celle des sénateurs. Le système a également été transformé par les mutations du quatrième pouvoir, de la presse élitiste de la fin du 18e, aux médias de masse, tels la radio et la télévision, et aujourd'hui aux réseaux sociaux et aux blogs liés à Internet. Enfin, troisième source essentielle de mutation, l'ascension des États-Unis de petites nations isolationnistes en superpuissance mondiale, en république impériale, pour reprendre l'expression de Raymond Aron, en charge de l'ordre international. Alors le résultat de tout ceci, que je vais maintenant analyser plus en détail, n'a pas été un bouleversement radical des grands équilibres, mais deux inflexions dans le sens d'une affirmation progressive du pouvoir central sur les États fédérés et de la présidence sur le Congrès. Voyons d'abord l'affirmation progressive du pouvoir central. Elle s'est produite essentiellement à l'occasion de grandes crises, telles, pour commencer, la guerre civile, qui précisément a été menée pour la préservation de l'Union contre le droit et la prétention des États à faire sécession. Également ont joué la Grande Dépression, mais aussi parfois de grandes pulsions réformistes. Le tout procédant à travers soit des amendements, tels celui qui abroge l'esclavage, ou encore ceux qui étendent successivement le droit de vote, soit de grandes lois, souvent votées par le Congrès, en particulier au titre de la clause du commerce inter-État qu'il est en droit de réguler, enfin à travers des arrêts de la Cour suprême. Néanmoins, il faut bien se rendre compte, c'est pourquoi je disais que les grands équilibres n'avaient pas été fondamentalement bouleversés, que les partisans des droits des États n'ont jamais désarmé aux États-Unis, tirant argument du 10e amendement, qui rappelle que tous les pouvoirs qui ne sont pas explicitement délégués à Washington sont réservés aux États ou aux peuples. Ainsi, à partir des années 70, la poussée centralisatrice a été partiellement endiguée, en sorte qu'aujourd'hui, s'il reste difficile de nier l'ascendant d'un pouvoir central dont les subventions représentent plus du quart des revenus des États fédérés, il est tout autant d'ignorer la large autonomie qu'ont gardée ces derniers. J'en viens maintenant à ce qui nous préoccupe sans doute le plus, les équilibres entre les trois pouvoirs centraux et l'analyse de l'ascension progressive de l'exécutif. Au fond, chacun des trois pouvoirs allait chercher fatalement à tirer l'équilibre à son profit. On allait d'ailleurs avec le temps entendre successivement parler de gouvernement par le Congrès, c'est le futur président Wilson qui, comme universitaire, parlait de congressional government, de gouvernement des juges également, puis de présidence impériale. Quand on fait le bilan, je dirais que le président paraît peu à peu l'avoir emporté avec le temps dans l'authentique guerre de tranchées qui ne cesse de l'opposer au Congrès, une guerre que la Cour suprême est du coup parfois appelée à arbitrer. Historiquement d'ailleurs, c'est la Cour suprême qui la première a su se doter dès 1803, à l'occasion d'un fameux arrêt, Marbury v. Madison, d'un immense pouvoir qui ne lui était pas explicitement conféré par la Constitution, celui de décider de la constitutionnalité des actes de la présidence et des lois du Congrès. Essentiel, cette décision a eu d'énormes retombées. La première a été d'assurer à la Cour un moyen d'adapter la Constitution aux formidables mutations qu'a connues la nation. En 1954, ainsi, l'arrêt Brown a interdit la ségrégation scolaire et invalidé la fameuse doctrine « séparés mais égaux » qu'un autre arrêt de la Cour suprême de 1896 avait pourtant énoncé. Du coup, deuxième retombée, un débat très vigoureux s'est engagé entre ceux pour qui il existe une intention originelle des pères fondateurs qu'il faut à tout prix respecter et ceux pour qui les pères fondateurs n'ont en fait fixé que des principes très larges, laissant tout loisir aux générations futures de les adapter et interpréter. Enfin, troisième retombée, la Cour suprême et avec elle le pouvoir judiciaire se sont retrouvés très fortement politisés. Les présidents mécontents des arrêts de la Cour s'efforcent d'y changer la majorité en profitant des vacances pour nommer des juges proches de leurs idées, au risque dans certains cas de se heurter de front au Sénat qui doit les confirmer et parfois même d'être défait. Au total, pour la Cour suprême, il me paraît excessif de parler d'un gouvernement des juges parce que dans la mesure où sans le pouvoir de la bourse ou de l'épée, ils ont pour seule source d'influence leur légitimité et ils hésitent donc à la mettre en danger en allant trop à l'encontre d'une volonté majoritaire clairement exprimée. Ainsi, en 1937, c'est l'exemple le plus connu, les juges ont renoncé à s'opposer à un New Deal que l'élection de 1936 avait carrément plébiscité. Inversement, nul ne saurait nier l'importance du rôle des juges et en particulier de la Cour suprême. En témoigne la capacité de la Cour d'arbitrer nombre de conflits entre États fédéraux et États fédérés, voire de décider, comme en 2000, au moins directement elle l'a fait, de l'élection du président. En témoigne l'impact de ces décisions sur des questions comme la politique raciale, le droit à la vie privée, je pense évidemment à l'avortement en particulier, ou même le droit de propriété. Et en témoigne enfin l'intensité des débats que la nomination de chaque nouveau membre ne manque pas d'engendrer. En sorte que, pour reprendre la formule de Wilson, la Cour fait figure de convention constitutionnelle en session permanente. Si j'en viens maintenant au Congrès, il continue de garder d'immenses pouvoirs, même s'il a perdu la position dominante qu'au XIXe siècle il occupait. Ses atouts dans la lutte qu'il oppose constamment au président restent impressionnants. Le pouvoir de la bourse est peut-être le plus grand, mais le pouvoir d'enquête et de contrôle est lui-même sans équivalent. Par ailleurs, au Sénat, une simple minorité peut bloquer l'approbation non seulement des traités, on se rappelle bien sûr celui de Versailles, mais aussi de tout projet autre que financier, à travers le procédé de la flibuste, l'obstruction d'un seul sénateur qui ne peut être surmontée que par une majorité qualifiée de 60 sénateurs sur 100. Enfin, le pouvoir d'impeachment du Congrès reste une menace potentielle pour la survie du régime présidentiel. Comme l'ancien président Gerald Ford l'a un jour remarqué, rien n'empêche les élus d'ériger n'importe quoi en crime ou délit majeur, ce qu'ils ont effectivement donné l'impression de faire à l'occasion tant de l'impeachment d'Andrew Johnson au XIXe siècle que de celui plus récent de Bill Clinton. Pourtant, la puissance du Congrès doit être relativisée. Tout d'abord, il a parfois été victime de ses excès. Son comportement inquisitorial sous Joe McCarthy a permis ainsi à la Maison-Blanche d'inventer la notion, pourtant sonnant délicieusement 18e-iste, de privilège de l'exécutif, pour refuser de lui communiquer certains documents relatifs aux échanges entre le président et le Congrès. Ensuite, pas plus que la Cour suprême, le Congrès ne peut véritablement impulser une politique. De nature, vous l'avez compris, structurellement différente, les deux chambres ont souvent du mal à s'entendre. La sensibilité, par ailleurs, des élus à des électorats locaux et étroits privilégie souvent l'esprit de clocher dans leur approche de l'étranger. Enfin, la lourdeur des procédures débouche sur une lenteur frustrante, hors une situation d'urgence. Mais si le Congrès agit dans ces situations alors avec diligence, c'est le plus souvent en suivant quasi aveuglément l'impulsion donnée par le président, comme par exemple dans la foulée des attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, l'image du Congrès est fortement dégradée. Face aux lourds problèmes économiques auxquels le pays est confronté, il apparaît d'autant plus paralysé que les plus puissants lobbies, l'industrie des armements, l'industrie pharmaceutique, celle du pétrole, celle de la finance, y exercent un poids volontiers jugé démesuré. Reflet d'ailleurs des efforts des élus pour ménager de multiples et puissants intérêts, les textes de plus de 1000 pages sont fréquents, qui semblent conçus davantage pour être votés que pour être appliqués. Si j'en viens maintenant au président, il est clair qu'avec le temps, il a su largement tirer parti du flou avec lequel ses compétences ont été définies. Le pouvoir exécutif, dit simplement la Constitution, sera confié à un président des États-Unis. Combinant les fonctions de chef d'État et de chef de gouvernement, le président est pour commencer le seul des trois pouvoirs à être en mesure de fixer le calendrier, les termes du débat, d'impulser une politique. Ainsi d'ailleurs, chargé au départ de l'exécution des lois, il s'est toujours plus affirmé comme le législateur en chef de la nation, à même de neutraliser par son veto les lois votées par le Congrès ou de les élimer via des déclarations de signature rejetant les clauses à ses yeux contraires à ses pouvoirs et à ses missions. Il peut aussi publier des décrets aussi importants que la déclaration d'émancipation de Lincoln et promouvoir à travers les élus de son parti et sa puissante bureaucratie ses projets de loi favoris. Enfin et surtout, des trois pouvoirs, le président est celui à avoir le plus bénéficié de l'évolution de l'histoire. Tout d'abord, la démocratisation puis l'émergence des médias de masse ont renforcé son influence. Seul à pouvoir se targuer de représenter le pays tout entier, il dispose de ce fait, de ce qu'on appelle le bully pulpit, une tribune magique dont l'impact n'a pu être que magnifié par les médias électroniques. Et il s'en sert pour distiller l'information, décidant de ce qui doit rester secret et de ce qui doit être porté à la connaissance de la nation. Le président a de même largement tiré profit de la centralisation croissante du pays. La fin du XIXe siècle, mais surtout les années 30, ont coïncidé avec l'émergence d'une présidence moderne, dotée d'une bureaucratie toujours plus puissante et à même d'imprimer sa marque sur la marche de la nation. Enfin et surtout, les pouvoirs du président ont été propulsés par l'ascension des États-Unis au rang de superpuissance. Si le Congrès dispose en politique étrangère de compétences difficilement imaginables pour un Français, les périodes de tensions internationales et a fortiori de guerre ont toujours favorisé l'extension des pouvoirs présidentiels. C'est que si la Constitution privilégie est en théorie le Congrès auquel elle consacre son article premier, nombre de pères fondateurs semblent avoir été persuadés qu'il reviendrait au président, en cas de grave péril, de mettre la Constitution entre parenthèses pour mieux la sauver. Au nom du vieux principe « Salus Populi Suprema Lex », le chef de l'État a pu ainsi invoquer ses responsabilités en tant que commandant en chef pour affirmer son ascendant sur le Congrès, voire bafouer provisoirement certaines libertés au nom de l'impératif de sécurité. un comportement que la Cour suprême, le plus souvent, a validé. D'emblée ainsi, évoquant leur droit de conduire des guerres défensives, les présidents n'ont pas hésité à se lancer unilatéralement dans des interventions armées. Il n'y a eu que 5 guerres déclarées, devait rappeler le sénateur Barry Goldwater en 71, sur les plus de 150 que nous avons menées. Mieux, la guerre civile comme la Première Guerre mondiale ont permis tant à Lincoln qu'à Wilson de se faire accorder des compétences intérieures impensables dans d'autres circonstances. Or, ce qui n'avait été que provisoire et associé à des périodes d'hostilité, attendues à partir de la Seconde Guerre mondiale, à se prolonger à partir de 1945, avec l'entrée dans l'ère nucléaire, dans la guerre froide et avec la guerre de Corée, dans une phase de militarisation de leur politique étrangère, les États-Unis ont vu rapidement émerger ce que l'on a appelé la présidence impériale, à même d'agir via la CIA dans le plus grand secret, de conclure 20 fois plus d'accords exécutifs souvent secrets que de traités, de déployer des troupes dans des zones troublées, voire de les engager, comme en Corée ou au Vietnam, dans d'authentiques conflits armés, le tout le plus souvent en profitant de l'abdication d'un congrès, soucieux de ne pas paraître prêter le flanc aux reproches de mollesse envers le communisme et enclin parfois même à déléguer, comme lors du vote de la fameuse révolution du Golfe du Tonkin, davantage de pouvoir au président que lui-même n'en revendiquait. À la longue, il est vrai, les échecs essuyés au Vietnam ont paru pulvériser tous les arguments. Qualité de l'information, unité de la décision, secret nécessaire face à l'ennemi, invoqué par la Maison-Blanche pour justifier sa primauté. Ils ont du coup redonné un nouveau lustre à la sagesse collective du Congrès, dont la révolte apparut un temps, au milieu des années 70, substituer une présidence en péril à la présidence impériale désormais décriée. Pour avoir paru concrétiser l'avertissement du sénateur Fulbright, selon lequel, et je le cite, « si l'Amérique devait devenir un empire, il y avait très peu de chances qu'elle pût éviter de devenir aussi de fait une dictature », les révélations liées au Watergate ont en effet convaincu les élus de donner un coup d'arrêt à une dérive susceptible de mettre l'équilibre constitutionnel en danger, une dérive débouchant sur une présidence plébiscitaire, ne s'estimant redevable de ses actes que lors des consultations populaires. Mais les années post-Watergate ont ainsi du coup souligné les limites des pouvoirs présidentiels que l'après-45 avait partiellement occultées. La première, c'est la brièveté d'un mandat qui ne laisse au président d'autant moins le temps de tenir les promesses qu'il a contractées que s'il est le seul à pouvoir impulser une politique, il éprouve aussi les plus grandes difficultés à la faire entériner, même quand il dispose de la majorité dans les deux chambres du Congrès. Depuis 1945, par exemple, seuls Johnson, Reagan et Obama peuvent se targuer d'une œuvre législative d'une réelle portée. Encore, ce dernier n'a-t-il pu l'arracher, on l'a vu, qu'à un prix politique des plus élevés. La seconde limite tient au fait que, prompt à s'effacer devant le président en cas de grave menace sur la sécurité, le Congrès a toujours eu tendance, si les choses tournaient mal, à rejeter sur le chef de l'État la responsabilité des conflits où il s'était lancé, et dès que les tensions finissent par s'apaiser, à récupérer les pouvoirs que dans l'urgence il avait concédés, en sorte que beaucoup ont pu croire à la fin de la guerre froide que la présidence impériale appartenait définitivement au passé. Pourtant, comme le 11 septembre 2001 l'a rappelé, les tensions du système international restent pour la Maison-Blanche le meilleur des alliés. Du jour au lendemain, les attentats ont rendu à la Maison-Blanche la position dominante dont elle jouissait. Et s'il a promis d'en faire un usage plus modéré, Obama lui-même a refusé de renoncer à nombre des droits que George Bush fils s'était fait concéder ou qu'il s'était unilatéralement arrogé. En conclusion, longtemps perçu comme un modèle à imiter, le régime présidentiel américain semble aujourd'hui, d'une certaine façon, victime de son succès. La doctrine de séparation des pouvoirs, avait observé le juge Louis Brandeis en 1926, a été adoptée non pour promouvoir l'efficacité, mais pour prévenir l'exercice du pouvoir arbitraire. Seulement, du coup, le régime apparaît aujourd'hui réfractaire à l'adoption des réformes que beaucoup estiment nécessaires. Nous souffrons, par exemple, a lancé le représentant Barney Frank, d'une crise constitutionnelle. Sans doute faut-il relativiser un phénomène récurrent au cours des années. Pourtant, alors même qu'Obama est aujourd'hui le troisième président perçu, après Bill Clinton et George Bush fils, comme illégitime par une partie non négligeable de la population, la crise apparaît plus grave que par le passé. D'abord, la représentativité du pouvoir politique est toujours plus contestée, pour n'en prendre qu'un exemple. La prolifération des flibustes, qui touche 70% désormais des projets de loi importants, semble avoir engendré une tyrannie de la minorité dans un Sénat dont une majorité des membres ne représente que 18% de l'électorat. Ensuite, hors un consensus idéologique que la polarisation partisane des dernières décennies a pulvérisé, le système des freins et contrepoids se révèle moins un atout pour le pays qu'une source de paralysie. La Constitution, a-t-on l'habitude de dire, a été conçue par des génies pour être gérée par des idiots. Mais aujourd'hui, les idiots semblent avoir compris comment tenir en échec les génies. Enfin, et surtout peut-être, le poids toujours plus exorbitant de l'argent que l'arrêt Citizens United de 2010 a encore récemment renforcé, menace de corrompre le système en subordonnant la séparation des institutions que la Constitution instaurée à une quasi-monopolisation du pouvoir politique par le pouvoir économique et menace aussi d'engendrer une démocratie à deux vitesses où le principe « un homme, un vote » est en gros respecté, mais où la capacité de se faire entendre devient de plus en plus l'apanage des plus fortunés. Sous cet aspect, les États-Unis ne semblent pas échapper à la crise de la démocratie que la globalisation a provoquée dans le monde industrialisé. Et c'est là sans doute le nouveau défi que cette très vieille constitution va devoir affronter. Merci.
Merci, merci Pierre, et merci aussi d'être tenu aussi scrupuleusement à la durée. Donc je vais passer tout de suite la parole à Renaud Baumert, pour aborder les mêmes questions de séparation, mais du point de vue européen. Quelques mots pour le présenter. Renaud Baumert est maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, Paris 2. Il a fait des études de sciences politiques, de philosophie et de droit. Il a un doctorat de sciences politiques consacré à la naissance de la justice constitutionnelle en Allemagne et en France. Et donc il est maître de conférence de droit public. Je cite juste le livre tiré de sa thèse, « La découverte du juge constitutionnel entre sciences et politique, les controverses doctrinales sur le contrôle de la constitutionnalité des lois dans les républiques françaises et allemandes de l'entre-deux-guerres ». Donc je lui donne la parole pour qu'il déplace en quelque sorte maintenant l'éclairage sur les situations européennes. À vous.
Merci beaucoup pour cette invitation. Rassurez-vous, l'intervention que je vais faire sera moins longue que le titre de ma thèse. Je vais parler donc des démocraties européennes. Alors, il faut le rappeler, la séparation des pouvoirs ne fut pas originellement une théorie d'inspiration démocratique, mais bel et bien une doctrine libérale. Sa visée première était de garantir l'individu contre l'arbitraire en proscrivant l'interprétation rétroactive des lois. Ça supposait notamment que les organes d'application du droit fussent distincts des organes législatifs. Par la suite, la théorie de la séparation des pouvoirs a connu plusieurs mutations successives. Au milieu du XVIIIe siècle, et notamment sous l'influence de Montesquieu, la théorie fut profondément reformulée. Selon ses vues, la séparation des pouvoirs se concevait essentiellement comme une règle négative qui interdisait qu'un même organe exerçât à lui seul deux ou trois des principales fonctions de l'État. Comme nous le savons, Montesquieu cherchait surtout par ce biais à promouvoir la balance des pouvoirs, c'est-à-dire un système où une même fonction serait exercée par plusieurs organes aux intérêts distincts. Toutefois, et comme l'ont montré les travaux de Michel Tropper, la théorie de la séparation des pouvoirs a reçu à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au XXe siècle un contenu nouveau. On l'interpréta alors comme la combinaison plus ou moins heureuse de deux exigences, l'indépendance des organes et leur spécialisation fonctionnelle. Appliqué au régime parlementaire, on parla alors de séparation souple des pouvoirs. Les raisons qui ont causé ces mutations successives de la théorie sont en soi un sujet d'interrogation. À première vue, chacun serait tenté d'émettre à ce propos une hypothèse qui semble bien naturelle. Moulée sur les systèmes institutionnels, la théorie aurait évolué avec eux. Dans les minutes qui suivent, je tenterai de montrer les limites de cette hypothèse. En d'autres termes, et au regard du fonctionnement des États européens, il me semble que la version la plus pertinente de la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment celle qu'on croit. Pour le montrer, je partirai de la théorie la plus récente, celle de la séparation souple, avant de remonter au système plus ancien de la balance des pouvoirs. Dans les deux cas, il s'agira de mesurer la pertinence descriptive de la théorie, c'est-à-dire d'en rapporter le contenu au fonctionnement réel des institutions que nous connaissons dans les pays européens. Alors, en ce qui concerne la théorie souple des pouvoirs, elle doit se comprendre comme une version dégradée de la séparation dite rigide ou parfois stricte des pouvoirs. Cette dernière variante, donc la séparation stricte, requiert le respect de deux règles, la spécialisation fonctionnelle des organes et leur indépendance. La première règle suppose qu'un organe exerce pleinement et exclusivement une fonction. Ainsi, le Parlement légiférerait, le gouvernement exécuterait et l'appareil juridictionnel rendrait la justice. La seconde règle est généralement présentée comme une garantie de la première. Pour éviter qu'un organe n'empiète sur la fonction réservée à un autre, aucun organe ne devrait être en mesure d'en composer ou d'en révoquer un autre. Entre autres choses, le respect de cette règle d'indépendance exclut la responsabilité gouvernementale et le droit de dissolution de la Chambre basse. C'est la raison pour laquelle on a longtemps voulu y voir une description du système présidentiel américain. Et comme l'ont montré de nombreux travaux, la théorie de la séparation stricte des pouvoirs est intrinsèquement peu vraisemblable et pratiquement peu pertinente. En effet, elle ne décrit pas adéquatement le système constitutionnel états-unien, unique objet auquel elle est censée s'appliquer. Comme l'a vient de le montrer le professeur Mélandry, le président de l'Union dispose d'un droit de veto législatif qui fait donc participer un organe exécutif à la fonction législative. Cette théorie est a fortiori inapte à décrire les démocraties européennes. C'est pourquoi on a cru bon d'en dériver une variante dite souple. On comptait rendre compte ainsi d'une composante structurelle de toutes les démocraties européennes, le parlementarisme. Apparu en Angleterre au cours du XVIIIe siècle, la responsabilité politique du gouvernement s'est en effet propagée dans tous les systèmes démocratiques européens. Le critère ultime de cette responsabilité, rappelons-le, c'est que le gouvernement puisse être efficacement poussé à la démission par le Parlement ou par une de ses chambres. Initialement conventionnelle, la responsabilité politique du gouvernement a peu à peu trouvé sa place dans le texte même de nombreuses constitutions. Bien entendu, le mécanisme parlementaire est la négation même de la règle d'indépendance des organes, puisqu'elle permet la révocation d'un organe, le gouvernement, par un autre, le Parlement. En outre, bien des systèmes parlementaires autorisent la dissolution de la Chambre basse par le chef de l'État, ou parfois par le chef du gouvernement. C'est la raison pour laquelle la théorie de la séparation souple des pouvoirs exclut la règle d'indépendance. Autrement dit, appliquée au système européen, la séparation des pouvoirs serait purement et simplement synonyme de spécialisation fonctionnelle des organes. Alors, faut-il souscrire à cette idée ? À l'évidence, non. D'une part, les gouvernements des États européens sont généralement investis de missions qui débordent la stricte exécution de la loi, et c'est notamment le cas en matière diplomatique ou en matière de défense. D'autre part, et plus fondamentalement, ces gouvernements participent puissamment à la fonction législative. Ils sont de manière écrasante le centre d'impulsion d'une procédure législative qu'ils dirigent et contrôlent étroitement. Bref, la participation gouvernementale à la fonction législative est la règle commune et elle est absolument essentielle. Par conséquent, la législation n'est pas une fonction dans laquelle le Parlement serait spécialisé. Et il semble qu'on puisse reconnaître cette doctrine de la séparation souple des pouvoirs pour ce qu'elle est, une complète erreur de perspective. Dans les systèmes européens, parler de séparation des pouvoirs pour caractériser les rapports entre le Parlement et le gouvernement revient en fait à céder à une idéologie libérale. Comme on persiste à tenir la séparation des pouvoirs pour une des garanties les plus sûres de la liberté, on préfère affirmer son existence plutôt que de voir la liberté s'évanouir. Ce biais idéologique n'est pas seulement le fait du spécialiste de droit constitutionnel. Les constituants et les acteurs de la vie politique y sacrifient avec un empressement égal. C'est ainsi que l'on continue à trouver dans de nombreuses constitutions, y compris les plus récentes, des références à la séparation des pouvoirs. C'est aussi pour cela que de bons auteurs persistent, par exemple, à parler du législatif pour désigner le Parlement ou de l'exécutif pour désigner le gouvernement. La conscience de cette réalité a amené certains auteurs à considérer que les régimes parlementaires se caractérisaient non par la séparation, mais par une collaboration des pouvoirs, collaboration que l'on qualifie généralement d'équilibrée. Si cette formule a fait florès, c'est parce qu'elle est rassurante, et si elle est rassurante, c'est surtout parce qu'elle est singulièrement équivoque. D'une part, la collaboration des organes s'observe dans à peu près tous les États, y compris dans ceux dont la forme de gouvernement est présidentielle. D'autre part, la responsabilité du gouvernement ne permet pas, à elle seule, d'inférer quels seront les rapports de cet organe au Parlement. En particulier, elle ne permet pas d'inférer que ces rapports seront équilibrés, si tant est que cet adjectif signifie vraiment quelque chose. En revanche, le système parlementaire implique une logique institutionnelle que l'on voit à l'œuvre dans toutes les démocraties européennes. C'est celle de la solidarité politique qui lie le gouvernement et la majorité parlementaire. Cette solidarité est précisément ce qui rend caduque la logique de la séparation des pouvoirs. En d'autres termes, dans les démocraties européennes contemporaines, la principale fracture ne passe plus entre les organes de l'État, mais entre la minorité et la majorité. Cette dernière contrôle non seulement le Parlement, mais aussi le gouvernement. On peut considérer, comme l'avait suggéré Walter Badgett, que les régimes parlementaires contemporains opèrent une fusion, ou pour mieux dire, un entrelacement des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan organique ? Sur le plan organique, la première conséquence de la responsabilité gouvernementale est ce que Badgett a si justement qualifié de fonction élective du Parlement. Dans toutes les démocraties européennes, parce qu'elles sont parlementaires, le gouvernement émane d'une manière ou d'une autre du Parlement. Les modalités de formation de l'organe gouvernemental peuvent varier considérablement, mais la fonction élective du Parlement demeure primordiale. Ainsi, le Premier ministre peut être désigné de manière quasiment directe par le peuple lors des législatives, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, où le monarque désigne, par une convention constitutionnelle, désigne comme Premier ministre le leader du parti qui a remporté les législatives. Il peut être élu par le seul Parlement, c'est le modèle allemand, ou même nommé par un organe tiers, comme c'est le cas en France, cet organe tiers étant le président de la République en vertu de l'article 8, alinéa 1er. Mais dans tous les cas, et même dans le dernier cas, même en France, l'accord de la majorité conditionne le choix du Premier ministre et la formation du gouvernement. En revanche, le degré de fusion entre Parlement et gouvernement varie d'un système à l'autre. Ainsi, le personnel ministériel n'est pas distinct du personnel parlementaire dans le modèle britannique, où il est requis d'être parlementaire pour devenir ministre. Il l'est en revanche dans la plupart des pays du continent, mais cela ne modifie que de manière très marginale la logique institutionnelle. Sur le plan fonctionnel, dans de nombreux pays, les ministres disposent concurremment avec les parlementaires de l'initiative des lois. Cette initiative est généralement beaucoup plus efficace, in fine, que celle des parlementaires. Ainsi, dans tous les pays d'Europe, l'écrasante majorité des lois adoptées étaient initialement des projets de loi déposés par le gouvernement. On compte entre 8 et 9 cas sur 10. Dans tous les systèmes parlementaires, les ministres ont accès au Parlement. Ils peuvent y défendre les textes gouvernementaux et soumettre des amendements à l'appréciation des chambres. La plupart des constitutions européennes, c'est l'une des modalités du parlementarisme dit rationalisé, contiennent aussi des dispositions qui permettent au gouvernement d'exercer un contrôle plus ou moins étroit sur la procédure législative. C'est particulièrement visible dans la Constitution française de 1958, bien sûr, c'est le titre 5, mais on retrouve des mécanismes du même ordre dans le droit parlementaire ou dans les constitutions étrangères. On ne s'en rend pas toujours compte dans les systèmes étrangers, parce que souvent, ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est le droit parlementaire qui contient les mécanismes qu'on appellerait de parlementarisme rationalisé. Ce qui diffère, c'est la nature des ressources qu'offrent ces dispositions au gouvernement. En outre, la prépondérance législative du gouvernement passe aussi par des moyens politiques qu'il ne faut jamais sous-estimer, faits majoritaires, disciplines de parti, etc., dont l'intensité varie d'un pays à l'autre. Non seulement les gouvernements européens participent activement à la législation, mais ils y jouent un rôle à la fois moteur et directeur. La participation des chambres à la législation se cantonne bien souvent à un pouvoir d'amendement dont l'intensité est variable selon les systèmes observés. Comme le note Céline Wintzel dans la thèse de doctorat qu'elle a consacrée aux procédures législatives françaises, allemandes, britanniques et italiennes, je cite, « La théorie du régime parlementaire comme régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs paraît totalement révolue. Partout, le régime parlementaire est surtout un régime d'unité du pouvoir au profit de l'exécutif. » Sans aller jusqu'à considérer les parlements comme des chambres d'enregistrement de la volonté gouvernementale, il est certain que l'équilibre qu'on prête si volontiers au régime parlementaire est assez imaginaire. La prépondérance gouvernementale résulte sans doute d'une contrainte propre aux grands États contemporains. La complexité et la technicité des interventions étatiques exigent une très grande coordination entre les degrés législatifs et réglementaires. Et on observe d'ailleurs un phénomène similaire aux États-Unis. En préparant les lois, les gouvernements parviennent tant bien que mal à assurer cette nécessaire coordination entre les degrés législatifs et réglementaires. Alors, si le fonctionnement des démocraties européennes condamne la théorie dite de la séparation souple, on peut se demander si elle ne confère pas, en revanche, une actualité nouvelle à un modèle plus ancien, celui de la balance des pouvoirs. Défendu, alors c'est le modèle classique du libéralisme du XVIIIe siècle, défendu notamment par Montesquieu, la balance des pouvoirs est réalisée lorsqu'une même fonction est exercée conjointement par plusieurs organes. Ainsi, dans la lecture idéalisée que Montesquieu donnait des institutions britanniques, la loi devait être confectionnée à la fois par une chambre bourgeoise, par une chambre aristocratique et par le monarque qui disposait à cet effet d'un droit de veto législatif. Une construction de ce type repose sur un idéal qui s'apparente à celui du gouvernement mixte. Il faut tout au moins penser que les organes qui participent à la législation sont dépositaires d'intérêts distincts et que cette pluralité des intérêts représentés est une richesse. De leur fusion, de la fusion de ces intérêts, doit naître un droit modéré et bien tempéré, c'est-à-dire non oppressif et mutuellement acceptable. C'est cette idée qui amena Carl Schmitt à considérer le gouvernement mixte comme l'horizon indépassable du libéralisme constitutionnel. La balance des pouvoirs suppose donc qu'une même fonction soit partagée entre plusieurs organes. La superposition de cette définition et des éléments qui précèdent pourrait laisser penser que la balance législative serait réalisée dans les démocraties européennes puisque le gouvernement et le Parlement y confectionnent la loi de concert. Toutefois, cette analyse repose sur un appauvrissement important du concept de la balance des pouvoirs. Pour le dire simplement, la balance suppose la possibilité d'un balancement. En d'autres termes, il faut qu'un désaccord soit possible entre les organes qui confectionnent la loi pour qu'on puisse véritablement parler de balance des pouvoirs. C'est manifestement le cas aux États-Unis. Dans la mesure où le président de l'Union et le Congrès sont issus de scrutins distincts, ils n'appartiennent pas nécessairement à la même famille politique. Le cas échéant, la menace d'un veto législatif du président entraîne une négociation d'intérêts conforme à l'idéal libéral, celui d'un balancement dont doit résulter la modération du droit. Parfois, ça mène aussi, comme l'a dit le professeur Mélandry, à la paralysie. En revanche, la solidarité politique qui lie le gouvernement et la majorité en régime parlementaire aboutit naturellement à un résultat très différent. Elle ne peut pas prendre la forme d'un véritable balancement, et cela pour au moins deux raisons. La première est que les deux principaux organes législateurs découlent de la même élection, de manière directe pour la Chambre basse et indirecte pour le gouvernement. Si malgré cela, un désaccord important devait les opposer, la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, ou bien la dissolution, y remédierait. Dans ce type de système, le conflit fonctionnel trouve donc toujours une solution organique. De sorte que dans les démocraties européennes, c'est ailleurs qu'il faut chercher un renouvellement de la balance des pouvoirs. Où ça ? Eh bien, principalement du côté de la justice constitutionnelle. L'émergence dans les systèmes européens de diverses formes de contrôle de constitutionnalité représente une évolution majeure. En Europe, c'est surtout après 1918 que la justice constitutionnelle commence à s'organiser sous sa forme moderne, notamment en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Roumanie ou dans l'Espagne républicaine. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays européens, l'Allemagne, puis la France, adoptent des systèmes relativement comparables. En général, ces pays se sont démarqués du modèle américain en érigeant des cours constitutionnelles qui monopolisent le contrôle de la loi. Hans Kelsen, qui apporta une contribution importante à la naissance de la Cour constitutionnelle autrichienne, et qui siégea d'ailleurs comme juge constitutionnel pendant 10 ans, Hans Kelsen ne cherchait pas à masquer le rôle proprement législatif du juge constitutionnel. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il y voyait un organe capable d'actes de législation négative. Autrement dit, en censurant une loi déjà en vigueur, la Cour constitutionnelle prend un acte de nature foncièrement législative. On pourrait ajouter que cette fonction législative existe également en cas de contrôle a priori de la loi. En effet, comme l'a montré Charles Eisenman, on peut considérer que sont co-auteurs d'un acte tous les organes qui auraient pu s'opposer efficacement à sa confection. En toute hypothèse, dans les systèmes où il existe une juridiction constitutionnelle, on peut la considérer comme l'un des organes qui prend part à la législation. Typiquement, le législateur complexe comprend alors 3 organes, le gouvernement, le Parlement et la Cour constitutionnelle. Les 2 premiers sont politiquement solidaires, tandis que le 3e est pensé pour n'être soumis à l'influence d'aucun autre. Mutatis mutandis, il occupe donc dans le système moderne un rôle analogue à celui du monarque dans le gouvernement mixte classique. Réputé indépendant et neutre du fait de son mode de formation, il dispose d'une sorte de droit de veto législatif. On peut espérer de cet agencement institutionnel qu'il aboutira à la confection d'un droit modéré pour au moins 3 raisons. En premier lieu, la menace que fait peser la saisine de la Cour par la minorité pourrait amener la majorité à faire des concessions politiques. Si elle s'y refusait, deuxièmement, il se pourrait que la Cour constitutionnelle adoucisse la loi en supprimant certaines dispositions jugées inconstitutionnelles. Enfin, dans l'hypothèse où la majorité souhaiterait passer outre le jugement de la Cour constitutionnelle, elle serait contrainte, la majorité, de recourir à la procédure de révision constitutionnelle, de modifier la Constitution. Dans bien des cas, cela passe par un vote à la majorité qualifiée, ce qui suppose que la majorité parlementaire se concilie une partie de la minorité parlementaire et donc passe préalablement avec elle un compromis politique. Ces raisonnements, qui furent tenus par Kelsen, ne sont bien entendu recevables qu'en supposant une Cour constitutionnelle à la fois juridiquement qualifiée et formée de telle manière qu'elle puisse demeurer indépendante. Ce qui pose problème fondamentalement, c'est l'interprétation qu'il faut donner à ce renouvellement de la balance. Comme nous l'avons signalé, le schéma de la balance des pouvoirs correspondait à l'idéal du gouvernement mixte et pas à celui de la démocratie. Le problème est de savoir si l'émergence de la justice constitutionnelle ne réintroduit pas un élément de mixité dans les démocraties contemporaines. Certains caractères de la justice constitutionnelle pourraient le laisser penser. En premier lieu, l'origine intellectuelle de la justice constitutionnelle. Cette institution n'a pas été seulement promue pour équilibrer les institutions, imposer le respect de la Constitution ou protéger les libertés individuelles et collectives. Que ce soit en France ou en Allemagne, certains de ses promoteurs, entre nous les plus ardents, ont surtout voulu conférer à une oligarchie, à une aristocratie de la robe, la possibilité de contrôler une loi démocratiquement formée. Il faut aussi y voir un mouvement de réaction face à la démocratisation du système européen. Même si ce n'est plus de cette façon que l'on présente la justice constitutionnelle, la composition d'une Cour constitutionnelle reste toujours délicate. Dans la plupart des systèmes européens, il faut une certaine qualification juridique pour devenir juge constitutionnel. Heureusement, ce n'est pas le cas en France. En outre, les juges sont souvent désignés de manière consensuelle par les principaux groupes parlementaires. C'est le système de proporte qui existe en Autriche, en Allemagne, mais une fois de plus, pas en France. La Cour constitutionnelle en retire généralement une composition mixte qui peut apparaître à la fois comme technocratique et médiatement représentative. Le deuxième élément à prendre en compte est la nature de la volonté qui est produite. Dans l'hypothèse où l'on reconnaît à la Cour constitutionnelle une fonction représentative, celle-ci découle moins de son origine, de l'origine de l'organe, que du texte qui l'interprète. Autrement dit, la Cour constitutionnelle se ferait le porte-parole du peuple dont la volonté est consignée dans la Constitution. On remarquera cependant que l'interprétation d'un texte constitutionnel n'est jamais une pure opération de connaissance. Depuis plus de 100 ans, personne ne souscrit plus à la théorie du jugement syllogistique et du juge bouche de la loi. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'application de la Constitution fait intervenir la volonté du juge constitutionnel. Ce qui implique que la Cour constitutionnelle participe activement à fixer la signification de la Constitution et qu'à cet égard, elle est bien mieux armée que l'auteur auquel le texte est imputé. La question que soulève ce système est alors assez simple. Peut-on, dans une république démocratique, admettre qu'un organe dépourvu de légitimité démocratique, ou bien un organe à la légitimité démocratique douteuse, puisse participer à la confection de la loi? Bien qu'elle soit extrêmement importante, cette question reçoit généralement une réponse si laconique qu'elle tient en deux mots, peu importe. Et c'est là, sans doute, l'un des plus précieux enseignements que l'on puisse tirer de l'actualité de la séparation des pouvoirs. Parce qu'elle a complètement disparu de nos systèmes, la majorité y bénéficie d'une puissance écrasante. Et devant la logique majoritaire, n'importe quel contrepoids semble bénéficier, par principe, d'une approbation quasiment générale. En somme, et paradoxalement, ce n'est pas la séparation souple qui a pris le relais de la balance des pouvoirs. Dans les systèmes européens, c'est au contraire l'inexistence de la séparation des pouvoirs qui, à tort ou à raison, a semblé légitimer la résurgence du vieux système de la balance. Je vous remercie.
Alors, merci Renaud Baumer. Le paysage se précise et donc je vais maintenant laisser à Guy Carcassonne le soin de le compléter et du point de vue français. Je le présente rapidement. Guy Carcassonne est professeur de droit public à l'Université Paris-Ouest et de Nanterre-la-Défense, ex-Paris 10, agrégé de droit public. J'insiste surtout, il enseigne le droit constitutionnel, le droit des libertés fondamentales, le droit parlementaire, etc. Mais j'insiste aussi sur son expérience pratique de conseiller au cabinet du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et la presse de 1988 à 1991. Et surtout son travail au sein des commissions, membre de la commission de réflexion sur la réforme du mode de scrutin, la commission Wedel en 1992, membre de la commission de réflexion sur le statut pénal du chef de l'État, commission Avril 2002, et en 2007, membre du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Donc, je vous laisse compléter.
Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie d'abord de m'avoir convié à intervenir dans cette salle qui, vous le comprendrez bien, pour quiconque est attaché au droit constitutionnel, est un lieu particulièrement émouvant. Donc pour parler avec vous, pendant le temps qui m'est imparti, 25 minutes, de la séparation des pouvoirs en France. La France, à l'égard de la séparation des pouvoirs, a des relations curieuses, parce que d'un côté, elle est persuadée de l'avoir inventée, de l'autre, elle est convaincue de ne pas véritablement la pratiquer, et elle a deux fois tort. Elle a deux fois tort parce que, évidemment, ce n'est pas la France, nonobstant l'immense mérite de Montesquieu, qui a inventé la séparation des pouvoirs, même si, remontant à Bodin, on pourrait y trouver des origines directes, c'est davantage la pratique britannique, la théorie aussi britannique. Enfin, Locke, avec la distribution des pouvoirs, avait dit un certain nombre de choses tout à fait déterminantes que Montesquieu a profondément réorganisées, plus qu'à proprement parler créées. Quant au fait que la séparation des pouvoirs soit traditionnellement assez mal respectée, assez mal pratiquée en France, il appelle pour le moins quelques nuances. Tout à l'heure, Mélandry rappelait la prégnance aux États-Unis de la formule de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, formule effectivement américaine, sauf erreur, elle est de Lincoln dans son adresse de Gettysburg. Rappelons-nous que cette formule est reprise expressément par l'article 2 de la Constitution française, qui en fait le principe de la République, le principe de notre République. Et ce qui illustre immédiatement le fait qu'un principe commun aux deux rives de l'Atlantique peut donner lieu à des applications pour le moins éloignées l'une de l'autre. Mais pour revenir au jugement assez péjoratif généralement porté sur la séparation des pouvoirs en France, je crois que, pour partie, il procède d'une confusion. Une confusion, au demeurant, que Renaud Baumer vient de contribuer à lever, une confusion absolument permanente entre séparation et équilibre. En effet, si la séparation relève du droit, l'équilibre relève davantage du fonctionnement. Or, non seulement il n'y a pas, à ma connaissance, une seule démocratie moderne qui ait montré un système de véritable équilibre des pouvoirs, mais encore peut-on même, d'une part, rappeler historiquement que la séparation des pouvoirs a toujours été de pair dans la réalité avec une véritable hiérarchisation des pouvoirs. Des pouvoirs séparés, mais pas nécessairement des pouvoirs égaux. À partir du moment où les pouvoirs ne sont pas nécessairement égaux, on ne voit pas par quel miracle ils pourraient être équilibrés. Et que d'autre part, aujourd'hui, un certain nombre de démocraties qui fonctionnent, oserais-je dire le mieux, me contenterais-je de dire le moins mal, le font sur un registre tout à fait accepté, tout à fait assumé de déséquilibre. Mais un déséquilibre qui, une fois qu'il est assumé, peut être correctement organisé. Et donc, lorsque l'on a cela en tête, et que je vais m'attacher à essayer de préciser ou de démontrer, alors on peut admettre, en tout cas c'est la thèse que je défendrai, qu'en France, la séparation des pouvoirs est juridiquement satisfaisante et que l'équilibre est politiquement introuvable. Vous aurez évidemment identifié la névrose des juristes et des profs de droit en particulier dans leur attachement au plan en deux parties. Donc, la séparation juridique satisfaisante, le dispositif constitutionnel organise, proclame et organise la séparation des pouvoirs. Et pour combler les lacunes de cette proclamation et de cette organisation, eh bien, le Conseil constitutionnel veille et apporte une contribution qui n'est pas négligeable. Envisageons ces deux aspects tour à tour. Premièrement, oui, la Constitution proclame et organise la séparation des pouvoirs. Bien sûr, elle fait référence à la déclaration de 1789 et à son célèbre article 16, selon lequel toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Bien. Au-delà de cela, mais tout le dispositif constitutionnel est un dispositif qui organise, comme d'ailleurs dans la majeure partie des États, dans la totalité des États démocratiques modernes, la séparation de pouvoirs spécialisés. Oui, le gouvernement gouverne, le Parlement parlemente et le juge juge. Alors si l'on entre un petit peu plus dans le détail, que le gouvernement gouverne, c'est-à-dire détienne ce qu'anciennement on appelait le pouvoir exécutif et dont on sait que c'est incomparablement plus large, ne fait aucune espèce de doute. Cela dit, il détient même tous les instruments en main pour, comme le dit l'article 20 de la Constitution, déterminer et conduire la politique de la nation. Et certes, on ne lui reproche pas, peut lui reprocher éventuellement, selon les cas, les choix qu'il fait, on ne lui reproche généralement pas d'être dans l'incapacité de faire des choix. Il a les moyens de gouverner, il a tous les moyens de gouverner, et donc, de ce point de vue-là, la tâche spécialisée qui est la sienne lui est confiée dans des conditions telles qu'il est parfaitement en mesure de l'assumer. Alors, on vient de faire remarquer, à juste titre, Renaud Baumer l'a souligné, qu'il y a quand même un petit malaise parce que la séparation des pouvoirs ne se limite pas exclusivement à l'attribution de fonctions spécialisées à des autorités différentes. Elle suppose aussi l'indépendance des unes par rapport aux autres. Et évidemment d'observer aussitôt que le gouvernement n'est pas indépendant du Parlement puisqu'il peut être renversé par celui-ci. Soit, qui pourrait en disconvenir ? Néanmoins, qui pourrait omettre de relever aussi que une motion de censure a été adoptée en France sous la Ve République, en octobre 1962. Et donc, que la férule que l'institution parlementaire exerce sur le pouvoir gouvernemental n'est pas exagérément sévère. Et l'on pourrait poursuivre. Une autre a été adoptée en Grande-Bretagne en 1979, mais avant 1979, il fallait remonter au gouvernement Macdonald de 1925 pour voir un autre gouvernement renversé au Parlement. On pourrait poursuivre avec l'Allemagne, où en tout et pour tout, trois, je crois, motions de censure ont été adoptées depuis 1949. Bref, ceci pour dire qu'évidemment, évidemment, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Tout aussi évidemment, cette responsabilité ne limite pas ses effets aux seuls cas dans lesquels se produit le paroxysme qu'est la chute effective, la démission obligatoire du Premier ministre, certes, mais que néanmoins, ces gouvernements peuvent avoir le sentiment de ne pas véritablement dépendre tant que cela de la majorité parlementaire, pour l'excellente raison que la plupart du temps, ils en sont les chefs. Donc, comment peut-on à la fois considérer que le gouvernement est dépendant, parce qu'effectivement, il est juridiquement subordonné à la majorité parlementaire, et qu'en même temps, le gouvernement est dominant, car il assujettit à sa volonté la majorité parlementaire? Il y a là un hiatus qui me paraît difficile à résoudre, autrement que par le constat simple de ce que, par-delà l'indiscutable réalité juridique, le gouvernement est en fait maître de son destin, beaucoup plus que la théorie du régime parlementaire ne peut le donner à penser. Donc oui, le gouvernement gouverne. Le gouvernement gouverne tandis que le Parlement légifère et contrôle. Cela fait partie traditionnellement de ses fonctions et elles ont été réaffirmées par la nouvelle rédaction donnée à l'article 24 de la Constitution consécutive à la révision constitutionnelle de 2008, mais fondamentalement, c'est bien de cela qu'il s'agit, légiférer et contrôler. Et qui donc empêche le Parlement de légiférer? Personne. Y a-t-il jamais une loi en France qui serait adoptée sans l'intervention du Parlement? Oui, s'il s'agit d'un référendum, dont personne ne contestera qu'il puisse être organisé, mais non dans tous les autres cas. Il n'y a jamais de loi que votée par le Parlement. Alors certes, ces lois votées par le Parlement ont été, dans la majeure partie des cas, voulues par le gouvernement. Soit. N'empêche que c'est bien le Parlement qui vote, et que malgré sa force et sa volonté, le gouvernement seul, fût-ce avec le soutien le plus déterminé du président de la République, n'a pas le pouvoir d'adopter une loi. C'est un privilège, un monopole parlementaire sous la seule réserve du référendum que personne ne peut lui contester. Alors qu'ensuite, les parlementaires usent de ce pouvoir d'une manière qui n'est pas aussi libre qu'on pourrait l'imaginer, soit. Reste que, du point de vue de la séparation des pouvoirs, la situation n'est pas forcément violemment critiquable. Et ce même Parlement contrôle. Il ne contrôle pas seulement par cet aboutissement ultime que j'évoquais tout à l'heure, celui de la motion de censure, mais enfin par des questions écrites et orales, des commissions d'enquête, des missions d'information, toutes sortes de rapports de contrôle. Il a tous les moyens de contrôler la totalité de ce que fait le pouvoir exécutif, et bien encore au-delà, la totalité de ce que fait celui que l'on pourrait appeler le pouvoir administratif. Il a la plénitude donc de ses capacités, et au demeurant les exerce de manière souvent assez intéressante, même si, hélas, les médias ne se font pas toujours suffisamment l'écho des bons produits que auxquels le Parlement est capable de donner naissance. Reste alors le troisième terme, l'autorité judiciaire. Mais l'autorité judiciaire aussi a son propre monopole. Il n'y a là-dessus aucune espèce de doute. Certes, il y a des atteintes à ce monopole. Le président, article 17 de la Constitution, a le droit de faire grâce. Le Parlement, article 34 de la Constitution, peut voter des lois d'amnistie. Néanmoins, sous ces réserves traditionnelles et limitées, c'est évidemment l'autorité judiciaire qui exerce la fonction de juger, que de nouveau personne ne peut exercer à sa place. Et de nouveau, dans des termes évidemment différents de ceux qui valent pour le Parlement, mais néanmoins assez proches, est mise en cause non pas le droit de l'autorité judiciaire à prendre ses décisions, mais l'indépendance avec laquelle l'autorité judiciaire les prend. Et là encore, Il y a quelque chose à mes yeux de commun entre les juges et les parlementaires. Il ne dépend que d'eux-mêmes. Il ne dépend que d'eux-mêmes de faire preuve d'indépendance. Et plus encore pour les juges que pour les parlementaires. Car les juges inamovibles ne sont pas soumis au même type de menaces que celles que l'on peut faire peser sur des parlementaires. Donc les magistrats, les juges inamovibles sont protégés par leur statut. L'autorité judiciaire est protégée par les règles constitutionnelles qui la définissent. Il n'y a là-dessus rien à mes yeux qui mérite d'être critiqué de manière particulièrement sévère du point de vue de la séparation des pouvoirs. Oui, je pense que le système constitutionnel la proclame et l'organise d'une façon qui n'est pas intrinsèquement forcément critiquable. J'ajoute à cela, c'est le second élément, qu'évidemment, en ce qui le concerne, chaque fois que nécessaire, le Conseil constitutionnel, qui est en quelque sorte placé en surplomb par rapport à cette séparation des pouvoirs, veille à son respect. Il veille à son respect de toutes sortes de façons différentes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais à l'égard du Parlement, par exemple, il impose au Parlement, avec la jurisprudence que l'on appelle de l'incompétence négative, d'exercer pleinement ses prérogatives, les pouvoirs qui n'appartiennent qu'à lui, précisément parce que lui seul peut faire la loi et que la Constitution détermine les domaines dans lesquels le législateur doit intervenir, eh bien le Conseil constitutionnel n'hésite pas à censurer certaines dispositions législatives, non pas parce que le Parlement aurait mal fait son travail ou qu'il en aurait fait trop, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pas pris des décisions qui pourtant ne relèvent que de son autorité. Signifiant par là même que la part de décision qu'il n'a pas assumée lui-même se trouverait implicitement renvoyée vers l'exécutif, ce qui serait une atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais deuxièmement, le Conseil constitutionnel, toujours à l'égard du Parlement, censure absolument sans la moindre hésitation aussi tout ce qui, de près ou de loin, pourrait ressembler, j'allais dire en sens inverse, à une injonction adressée au gouvernement. Le Parlement n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions au gouvernement, n'a pas le pouvoir de dire au gouvernement « vous exercerez vos attributions de telle et telle manière », et ceci dans les manifestations les plus parfois triviales de la vie administrative, non. Le Conseil constitutionnel censure instantanément. Chacun son rôle, chacun son métier, chacun sa spécialité, et pas question d'interférer. De la même manière que le Conseil constitutionnel a souligné que l'indépendance de l'autorité judiciaire interdit au législateur, même s'il a à tout moment le droit de modifier les règles que le juge a décidé d'appliquer, interdit au législateur ni d'adresser des injonctions à l'autorité judiciaire, ni de se substituer à elle dans le règlement des litiges qui relèvent de sa responsabilité. En outre, le Conseil constitutionnel a également rappelé que ce qu'il appelle la conception française de la séparation des pouvoirs avait notamment comme conséquence, d'une part, l'existence de deux ordres de juridiction, l'autorité judiciaire d'un côté, les juridictions administratives de l'autre, que d'autre part, cette conception française de la séparation des pouvoirs pouvait se combiner sans poser de problème majeur en termes constitutionnels avec l'autorité dont chacun sait que le gouvernement l'exerce sur ses magistrats d'un type particulier que sont ceux du parquet. Bref, la Constitution est relativement, enfin même tout à fait classique, si j'ose dire, dans la manière dont elle organise la séparation des pouvoirs, et si le cas échéant manque un certain nombre d'éléments, le Conseil constitutionnel est là pour combler les lacunes, remplir les blancs et le faire d'une manière somme toute relativement efficace. Alors, naturellement, vous serez porté à penser que la présentation que je suis en train de faire est particulièrement séraphique, irénique, celle d'une France extraordinairement respectueuse de la séparation des pouvoirs qui donne au principe la plénitude de sa valeur, alors qu'en vérité, on a le sentiment que c'est tout à fait abusif. Oui, vous aurez raison, mais vous aurez raison parce que vous ferez implicitement référence à cette autre notion qui n'est pas nécessairement un corollaire de la séparation des pouvoirs, qui est leur équilibre, et au fait qu'indiscutablement, si la séparation en termes strictement juridiques est satisfaisante, l'équilibre en termes politiques est introuvable. Deuxièmement, donc, l'équilibre politique introuvable. Il faut vivre avec, parce que personne n'a trouvé, comme je le disais tout à l'heure et je vais y revenir, les moyens d'assurer cet équilibre. Il faut vivre avec, mais il faut le rendre acceptable. Et le seul moyen de rendre acceptable ce déséquilibre inhérent à tout système politique réside, à mes yeux, dans la multiplication des contrôles adéquats, appropriés, que ce déséquilibre lui-même appelle impérativement. De nouveau, ce sont les deux aspects que je vais évoquer tour à tour. D'abord, vivre avec la confusion. Oui, il y a une confusion permanente des pouvoirs, au moins en ce qui concerne l'exécutif et le législatif. Convenons que la situation du judiciaire, même parfois peu enviable, même souvent critiquable, est de toute façon différente de celle des interrelations entre l'exécutif et le législatif qui ont à vivre quotidiennement ensemble. Observons ensuite que s'est opéré historiquement un renversement formidable dont on n'a pas toujours perçu l'ampleur et tiré les conséquences. Quel est ce renversement ? Lorsqu'au XVIIIe siècle, et là-dessus je sais que vous aurez cet après-midi les meilleurs orateurs sur le sujet, Olivier Beau et Michel Tropper, lorsqu'au XVIIIe siècle fut théorisé, disons fin XVIIe, début XVIIIe, la séparation des pouvoirs, c'était toujours avec une idée directement empruntée à Bodin, qui postulait la supériorité intrinsèque du législatif. Le législatif était le premier pouvoir, et pas seulement le premier dans l'ordre de citation, non, le premier parce qu'il englobait tous les autres, que tous les autres s'en déduisaient, que tous les autres, parce qu'ils s'en déduisaient, étaient, d'une manière à préciser, subordonnés à l'égard du législatif. Et que voyons-nous au XXIe siècle, sans aucune espèce de doute possible, eh bien, que c'est aujourd'hui l'exécutif qui, à l'évidence, est quasi universellement dominant. Je peux dire quasi universellement, car là, quand il s'agit de l'exécutif, on peut hélas même englober les pays non démocratiques, qui d'ordinaire ne m'intéressent pas dans ce type de propos, mais même dans les nations démocratiques, l'exécutif est dominant partout. Les causes pour lesquelles l'exécutif est dominant mériteraient des interrogations, ça pourrait même mériter un colloque à soi-même. S'agit-il de causes rigoureusement techniques du point de vue de la gestion des États ? S'agit-il de causes plus profondes tenant à l'importance qu'a prise l'image et à l'incompatibilité qu'il y a entre l'image et la collectivité, entre l'image et le collège, obligeant à une personnalisation du pouvoir, laquelle naturellement profite inévitablement à l'exécutif. Sur ces causes, je n'avancerai pas davantage. J'observe simplement, et le constat me paraît difficile à contester, que partout, oui, il y a une domination absolue de l'exécutif. Et cette domination absolue de l'exécutif s'est traduite et pérennisée par l'émergence de ce que l'on appelle, et Renaud Baumer y a fait allusion, un bloc majoritaire. Aujourd'hui, il existe dans toutes les démocraties européennes, il n'existe pas aux États-Unis, mais d'ailleurs, peut-être est-ce parfois de cela que les États-Unis souffrent, un bloc qui, par-delà toute séparation des pouvoirs, unit dans une même solidarité, dans une même volonté, dans une même action, l'exécutif et le législatif, éventuellement avec le chef de l'État au passage. Alors, certains ont dit, mais dans ces conditions, il y a un nouveau type de séparation des pouvoirs. La véritable séparation des pouvoirs aujourd'hui, elle est entre majorité et opposition, entre le bloc majoritaire d'un côté, l'opposition de l'autre. Sauf que c'est une réponse qui, à mes yeux, n'a guère de sens. On ne peut pas parler de l'opposition comme un pouvoir, à peine comme un contre-pouvoir. L'opposition, par définition, est incapable de prendre une décision, au sens juridique du terme. elle peut contrôler, elle peut dénoncer. En d'autres termes, la majorité, le bloc majoritaire a l'expression, le pouvoir d'expression et le pouvoir de décision, le bloc minoritaire n'a que le pouvoir d'expression. Donc, l'utilisation là du terme de séparation des pouvoirs me paraît parfaitement impropre, mais à l'évidence, cette collaboration voulue, constante, assumée entre exécutif et législatif a eu comme conséquence de faire voler en éclats ce que le principe de séparation des pouvoirs voulait avoir de protecteur. Tout cela, bien entendu, dans le cas de la France, de surcroît éclairé, j'allais dire de surcroît aggravé, par une commune subordination de l'exécutif et du législatif à l'égard du président de la République, qui finalement, en étant dernière analyse, comme chacun sait, la puissance motrice du système, puissance motrice dont il faut toujours rappeler qu'elle doit son impérium non pas aux pouvoirs que la Constitution lui attribue, qui sont extrêmement limités, mais au fait que les autres, le gouvernement et le Parlement, mettent obligatoirement à sa disposition les pouvoirs qui sont les leurs. Et cette obligeance ne s'explique que par le mode de désignation du président de la République et la légitimité que celui-ci lui confère. Donc, indiscutablement, nous vivons dans une situation de confusion des pouvoirs qui risquerait fort de devenir oppressive, précisément parce qu'elle met un terme à tout ce que Montesquieu avait imaginé. Mais deux éléments sont là qui permettent de se rassurer. Le premier, Montesquieu ne l'avait pas conçu, mais on n'est quand même pas mécontent qu'il soit présent, c'est l'existence du juge constitutionnel. L'unique limite au pouvoir du bloc majoritaire, c'est l'obligation de respecter la Constitution, contrôlée par le Conseil constitutionnel. Or, cette obligation-là, le pouvoir majoritaire peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Or, rappelez-vous que lorsque je parle du pouvoir majoritaire, du bloc majoritaire, je songe évidemment au nôtre, en France, mais qu'en réalité, une situation de même type existe en Allemagne, en Espagne, au Portugal, bref, en Suède, dans tous les pays généralement européens, mais pas seulement, où existe un régime parlementaire majoritaire. Je pourrais ajouter le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d'autres. Donc, il y a cette confusion, mais heureusement, l'existence d'un juge constitutionnel est là pour confiner le bloc majoritaire, au moins dans le respect de la Constitution. Et puis le second élément qui est de nature à nous rassurer, c'est tout simplement le type de relation existant à l'intérieur de ce bloc majoritaire qui peut permettre à la séparation des pouvoirs de reprendre plus de signification qu'on ne croit. C'est à cela que je songe lorsque je dis que dès lors qu'il faut vivre avec la confusion, il faut tenter de la rendre acceptable par les contrôles adéquats. Il y a des différences ici entre, pour prendre ces exemples-là, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Les trois pays ont en commun de connaître ce bloc majoritaire. Les trois pays ont en commun de vivre cette confusion des pouvoirs. Les trois pays ont encore en commun de subir l'ascendant de l'exécutif. Mais il y a une différence fondamentale. Cette différence fondamentale, elle est dans la culture parlementaire des uns et des autres, qui n'est pas du tout la même. Pour schématiser et aller vite, la culture parlementaire allemande est une culture portée à rechercher du consensus. La culture parlementaire britannique est une culture strictement majoritaire dans le respect de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition sait que c'est la majorité qui a le pouvoir et l'accepte. La majorité sait parfaitement avoir le pouvoir et essaie d'éviter d'en abuser. J'observe au passage, Renaud Baumer rappelait tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'en France que le gouvernement détient des pouvoirs puissants. J'ai à ma gauche le buste de Guillotin, l'instrument qu'il a créé n'a pas traversé la Manche. En revanche, l'idée de l'instrument qu'il a créé à traverser la Manche, il y a dans la procédure parlementaire britannique un système que l'on appelle la guillotine, qui est un pouvoir donné à la majorité de couper le sifflet, pour dire les choses simplement, à l'opposition quand elle le décide, qui est d'une redoutable efficacité et dont les effets qu'on fait guillotin sont évidemment parfaitement radicaux. Bref, il y a en Grande-Bretagne une tradition très majoritaire mais respectueuse de l'opposition. Il y a, hélas, en France, une tradition, comment la qualifierais-je, autoritariste, caporaliste, qui fait que le gouvernement, les gouvernements, ont pris la mauvaise habitude, surtout à partir des années 70, mais enfin les années 70, ça commence à faire assez longtemps maintenant, en arrière, de considérer que la vocation de la majorité parlementaire était d'être aux ordres et que toute tentative de la part de celle-ci d'objection, éventuellement d'amendement, plus encore de menace, quoique la chose parût inconcevable, n'était rien d'autre qu'un début de rébellion qu'il fallait instantanément mater. Et là où, dans les pays voisins et comparables, par nécessité, mais aussi par culture, se pratique une véritable concertation permanente entre l'exécutif et le législatif, la France a pris la mauvaise habitude de l'unilatéralité. Le gouvernement exige, le Parlement exécute. Et les parlementaires, ce sont les psychologues qui nous l'ont appris depuis longtemps, tout aliéné est toujours plus ou moins complice de son aliénation, les parlementaires ont accepté, parfois en maugréant, occasionnellement en levant les bras au ciel, souvent en se plaignant, mais ont accepté ces oukases gouvernementaux, au point parfois de laisser l'exécutif commettre des erreurs qu'ensuite il a certes regretté, faute la plupart du temps d'avoir écouté ses parlementaires. Et donc, si la confusion inévitable des systèmes majoritaires doit être un élément auquel je serais porté à dire qu'il faut se résigner, c'est à la condition que les parlementaires secouent le joug qui les domine depuis si longtemps. Et à cet égard, je dois dire que je persiste à avoir quelque inquiétude. On a tout fait pour lui en donner les moyens. Contrairement à une idée reçue, le Parlement français non seulement a autant de pouvoir que les parlements comparables, mais il en a même davantage. Aujourd'hui, le Parlement français a plus de pouvoir que la Chambre des communes. Oui, plus de pouvoir que la Chambre des communes. Simplement, quelques pouvoirs que l'on offre à nos parlementaires, on a le sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait désireux de les exercer. Après les avoir réclamés lorsqu'ils les obtiennent, ils ont tendance à les délaisser. Et, en tout état de cause, ils ne valorisent pas le potentiel pourtant considérable qui est placé entre leurs mains. À quoi cela tient-il ? Alors, de nouveau, toutes sortes d'explications peuvent être mises en avant. Personnellement, je pense que le cumul des mandats est l'un des effets aggravants dans des proportions considérables qui alimentent ce phénomène. Je me garderai bien d'affirmer que ce soit le seul. Il y a d'abord et avant tout, oui, une dimension culturelle, parce que la culture parlementaire joue un rôle absolument moteur, absolument déterminant dans la manière dont fonctionnent des institutions qui, pourtant, peuvent se ressembler étrangement d'un pays à l'autre. Cette culture parlementaire pourra-t-elle évoluer ? Eh bien, peut-être oui, après tout, si des parlementaires se rappellent que la séparation des pouvoirs n'est pas simplement la formule consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, mais une invention admirable, destinée à servir des fins précises, à condition que ceux qui en sont les détenteurs se rappellent ce qu'est leur signification.
Merci. Alors, merci bien. Nous avons donc un peu de temps pour des questions. Nous allons en profiter. Et j'en vois tout de suite une ici. Attendez, on va vous apporter un micro.
Tous étaient très disciplinés.
Ah, parfait. Posez des questions brèves. Et,
ma question s'adresse à M. Melandri, qui a parlé de la République aux États-Unis. J'aimerais savoir d'où vient le concept au 18e siècle, dans la deuxième moitié du 18e siècle, du concept républicain. Parce que à ce moment-là, dans la deuxième moitié. Du 18e siècle, c'est l'esclavage et puis la royauté qui subsistait à ce moment.
On vous comprend pas, hein. Je sais pas, vous parlez ou trop près ou trop loin, mais non, j'ai trop près.
J'ai un problème médical. Je suis AVC, accident cérébrovasculaire. J'ai des problèmes pour me.
On n'arrive pas, hein.
Hein?
On n'arrive pas à vous comprendre, hein. Attendez, oui. C'est d'où vient votre question précisément?
Ma question, oui.
Ou alors, faites-la, traduisez-la.
Ma question, j'aimerais savoir d'où vient le concept républicain, parce qu'à ce moment-là, c'est la royauté qui s'étendait partout dans le monde.
Oui, d'accord.
Et puis le travail. Donc, d'où est-ce que c'était venu? Parce qu'il n'avait pas de référence républicaine à ce moment-là. Voilà. Je vous remercie.
D'où vient le concept républicain par opposition à l'origine des...
Vous avez tout à fait raison. Au départ, lorsque les prémices de la Révolution américaine se dessinent, les Américains, ou plutôt les colons britanniques d'Amérique, pour être plus précis, pensent toujours en termes de compromis avec la royauté. On considère qu'au... Vous savez, ces gens-là se sentaient les plus libres du monde. C'était la grande idée. Nous sommes le peuple le plus libre du monde parce qu'on était très loin du roi et que donc le roi ne faisait sentir son pouvoir jusqu'au milieu, disons, du XVIIIe siècle que de façon extrêmement limitée. Et c'est à la suite de la guerre avec les Indiens et les Français, comme on l'appelle outre-Atlantique, c'est-à-dire ce qui correspond un peu à la guerre des Sept Ans, que le roi a décidé de prélever des impôts très fort et d'imposer, sans le consentement des imposés, ces colons britanniques. Et ça a été le début de processus révolutionnaire. Longtemps, effectivement, il y a eu le sentiment qu'il fallait rester dans le cadre monarchique et simplement obtenir de la part de la couronne britannique les réformes et les concessions qui permettraient de revenir à l'état prévalent des choses encore au milieu du XVIIIe siècle. Et puis, peu à peu, vous avez eu une radicalisation et, bien sûr, Thomas Paine a été un des principaux instigateurs du concept, le sentiment qu'il n'était plus possible, qu'il fallait rompre, qu'il fallait aboutir à une solution plus radicale. Et c'est ainsi, et vous avez raison de le signaler, que le concept non pas de démocratie qui n'intervient que dans, et encore de façon bien sûr, vous le savez, très limitée, c'est-à-dire aux hommes blancs libres majeurs, mais c'est au départ le concept de république qui s'impose peu à peu et qui va effectivement déboucher sur la jeune république américaine. Et ça, c'est avec la déclaration d'indépendance de 1776 que les choses deviennent claires. Désormais, il n'est plus question de trouver un aménagement du système. On rompt avec l'ancien système et on prend directement. Alors là, vous avez bien sûr tous les auteurs anciens qui étaient très lus. Vous avez une culture extraordinaire chez ces hommes qui ont créé la République américaine. Ils lisaient les anciens, ils étaient très imprégnés de culture romaine en particulier, mais aussi évidemment de la culture des Lumières. D'où la progressive marche vers l'indépendance, vers la République. Et puis, parce que, et Tocqueville l'explique très bien, finalement, le concept de République tel que le conçoit n'est plus tenable aux États-Unis en termes censitaires, comme au départ il l'est imaginé. le glissement très vite dans les trois premières décennies du 19e siècle vers la démocratie au sens évidemment du 19e du terme.
Autre question ?
Oui, je m'adresse en particulier à une remarque de M. Carcassonne qui suggère un rôle bénéfique, positif du juge constitutionnel pour ramener ou nuancer les effets négatifs du déséquilibre entre les différents pouvoirs. Ma question à M. Carcassonne est la suivante. Quel jugement portez-vous sur le mode de nomination des juges du Conseil constitutionnel, en particulier le droit des anciens présidents à être automatiquement membre du Conseil constitutionnel? Merci.
Ce droit est une absurdité. Indéfendable. La présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel est purement et simplement aberrante. Accessoirement, elle est inutile. Enfin, je veux dire, ça n'est pas décent. S'il s'agit de leur assurer un traitement, une retraite, très bien, la République généreuse doit pouvoir faire l'effort nécessaire. Mais aujourd'hui, Jacques Chirac ne siège plus pour les raisons que l'on sait. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, dès le début, il a trouvé que la question prioritaire de constitutionnalité était quelque chose de trop vulgaire pour qu'il s'y intéressât, donc il ne siégerait jamais. Il ne vient que pour quelques décisions. Évidemment, sa grande intelligence lui permet certainement de les enrichir considérablement, mais le Conseil constitutionnel en serait-il privé, que je crois qu'il pourrait y survivre. Non, c'est parfaitement aberrant, et j'observe avec désolation et incompréhension que dans la révision constitutionnelle de 2008 avait été voté au Sénat l'amendement qui mettait fin à cette présence incongrue, et qu'il semblerait que ce soit l'actuel chef de l'État, soucieux de sa retraite future, qui ait personnellement insisté pour que cet amendement soit supprimé. Bon. Donc voilà pour les anciens présidents de la République. Pour les autres, qui sont quand même le problème majeur, leur mode de désignation est saugrenu, et en même temps, je ne connais pas de bonne solution. Et celle-ci, finalement, donne des résultats qui sont honorables. Je ne connais pas de bonne solution, car M. Baumer rappelait que le droit commun, en quelque sorte, dans le reste de l'Europe, consiste d'une part à choisir des juristes, d'autre part à les faire désigner par une majorité qualifiée au Parlement, ou en tout cas par faire en sorte que leur nomination soit ratifiée par une majorité qualifiée au Parlement. Ça n'est pas une garantie absolue, loin s'en faut. Premièrement, c'est bien d'avoir des juristes. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je ne peux qu'observer que nous avons la seule cour constitutionnelle au monde où il y ait zéro prof de droit. Et ça n'est pas une revendication de ma part. Je ne suis ni assez vieux ni assez sage pour aller siéger dans ce genre d'institution. Mais enfin, c'est une observation. Dans toutes les cours constitutionnelles au monde, il y a généralement une majorité de professeurs de droit. En France, non seulement il n'y a pas de majorité, mais il y en a zéro. Voilà. Bon. Mais passons. En revanche, une cour constitutionnelle composée exclusivement de juristes peut perdre quelque chose. Mais surtout, la confirmation par une majorité parlementaire qualifiée n'a pas du tout les effets que l'on croit. M. Baumer parlait de manière lénifiante de personnalité de consensus, mais ça n'est pas comme ça que ça se passe, car les personnalités de consensus n'existent pas. Soit elles provoquent le consensus et généralement elles n'ont pas beaucoup de personnalité. Soit vous avez compris l'inverse. Donc, comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est tout simplement une discussion entre majorité et opposition. Chacun son tour ou chacun les siens. Le résultat, c'est qu'un système qui a la volonté d'aboutir à une dépolitisation produit en fait de l'hyperpolitisation. On a vu il y a seulement 3 ans en Espagne cette situation tout à fait singulière dans laquelle, parce qu'en Espagne existe, et toute la presse en parle dans ces termes, très clairement, un bloc conservateur et un bloc progressiste au sein du tribunal constitutionnel. Et puis, il n'y a pas de voix prépondérante en cas de partage du président. Et donc, il y a eu une situation singulière dans laquelle il y avait le même nombre dans le bloc conservateur et dans le bloc progressiste. Résultat, le tribunal constitutionnel espagnol n'a pas pu rendre de décision, pas la moindre décision pendant plusieurs mois, et il a fallu attendre des élections sénatoriales pour que finalement on puisse sortir de cette paralysie. Bon, et pourtant c'est un système qui sur le papier offre toutes les garanties, hein. Leur nomination doit être ratifiée à la majorité des deux tiers. Donc, au regard de ce panorama, évidemment trop rapide, le système français a quelque chose de loufoque, mais en même temps, il fonctionne plutôt bien, je suis convaincu qu'il va fonctionner de mieux en mieux. Accessoirement, je rappelle que siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel une ancienne présidente de chambre de la Cour des comptes, l'ancien vice-président du Conseil d'État, l'ancien premier président de la Cour de cassation. Pas tout à fait rien comme référence et comme juriste et comme preuve d'indépendance. Ce que je crois surtout, c'est que avec le temps désormais, la modification introduite en 2008 est capitale. Celle qui fait que désormais, les nominations sont précédées d'une audition devant les commissions compétentes des assemblées. Pourquoi est-ce capital ? Non pas du tout pour les raisons de vote, il faudrait un vote à la majorité des deux tiers pour les refuser. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la simple audition oblige les autorités de nomination à ne présenter que des candidats présentables. Et croyez-moi, c'est un gros progrès.
Monsieur Beaumaire veut ajouter quelque chose.
Je vous remercie. Le professeur Carcassonne a souligné qu'il n'y avait pas de bonne solution pour composer les cours constitutionnelles. Je crois qu'il a raison, mais je crois qu'on a aussi trouvé la pire. Hein. Le fait qu'on place une barre capacitaire pour une cour constitutionnelle, c'est une pratique habituelle dans la plupart des pays. On exige, par exemple, une maîtrise en droit pour devenir juge constitutionnel ou une certaine pratique comme magistrat. Évidemment, ça garantit des qualifications juridiques aux juges constitutionnels, ce qui en France a été jugé superflu, visiblement, mais qui évidemment n'obère pas la qualité juridique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En revanche, le fait de composer la Cour constitutionnelle de cette manière n'est pas une garantie contre la politisation de la Cour constitutionnelle, mais il n'y a pas de garantie contre une politisation de la Cour constitutionnelle. Forcément, tous les juges constitutionnels ont des opinions politiques et il y a de fortes chances que leur jurisprudence, d'une manière ou d'une autre, l'exprime. Quand on compose une Cour constitutionnelle d'une manière consensuelle, avec par exemple un vote à la majorité qualifiée du Parlement, on s'assure d'un certain équilibre au sein de la Cour constitutionnelle. Le système qui permet d'avoir, par exemple, au sein de la Cour constitutionnelle, un bloc progressiste et un bloc conservateur se distingue d'une autre qui permet pour le moment d'avoir essentiellement un bloc conservateur. Et ça rend plus acceptable la jurisprudence d'une cour constitutionnelle. Si ça ne la rend pas meilleure, en tout cas, ça la rend plus acceptable pour la majorité et pour la minorité.
Merci. Alors, encore deux questions rapides, hein, et puis on conclura.
Merci. Je trouve intellectuellement passionnant que M. Carcassonne accorde une telle importance au facteur qu'il a appelé la culture. Mais ce qui est intellectuellement passionnant pose un énorme problème à ceux qui veulent agir pour rénover ou pour améliorer notre démocratie, c'est-à-dire comment transforme-t-on les mentalités, certainement pas en légiférant. Donc, comment voyez-vous cette transformation possible ? Merci.
Certainement pas en légiférant, disiez-vous. Oui et non. Oui et non. Vous savez, la culture parlementaire française n'a évidemment pas toujours été celle-là, il s'en faut beaucoup. Qu'est-ce qui l'a fait changer ? La Ve République. Et qui plus est, un certain nombre de comportements que les ministres ont pris l'habitude d'adopter sous la Ve République. Dès lors, en changeant les règles, si j'ose dire en sens inverse, peut-être va-t-on contribuer à cette évolution. Ça a commencé. Vous savez, la révision constitutionnelle de 2008 est encore très loin d'avoir produit tous ses effets. D'abord, ça fait assez longtemps que je suis convaincu qu'une révision constitutionnelle ne peut véritablement être appréciée qu'une fois qu'elle a connu au moins une alternance. Quelle que soit la date, il faut qu'elle ait subi, si j'ose dire, au moins une alternance, que tout le monde ait été dans toutes les positions, majorité-opposition, pour qu'une révision donne livre la réalité de son contenu. Mais d'ores et déjà, vous savez, les parlementaires ne sont plus tout à fait aussi asservis qu'il l'était avant cette révision. J'ai participé à celle-ci, Yves Michaud l'a rappelé, comme membre de du comité Balladur. Nous avons fait quelque chose dont j'avoue que nous n'avions pas tout à fait conscience, dont nous avons pris conscience a posteriori, en ceci que, à l'expérience, le principal bénéficiaire de cette révision, c'est le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, plus que le Parlement lui-même. Mais toujours est-il que les parlementaires commencent à utiliser les pouvoirs nouveaux qui sont les leurs. Le fait désormais, je n'en donnerai qu'un exemple, que ce soit le texte de la commission qui serve de base à la discussion en séance. Voilà qui paraît très technique, mais cela veut dire que le ministre qui présente son projet de loi doit maintenant aller en commission pour défendre son projet de loi, puisque la commission a désormais le pouvoir de très substantiellement le modifier. Enfin, très substantiellement modifier le texte qui ensuite sera soumis à la séance publique. Donc c'est un enjeu très important. Donc le ministre doit aller se défendre en commission. Se défendre en commission, ça n'est pas exactement pareil que se défendre en séance publique. Et ce n'est sans doute pas Jean-Jacques Ayagon qui en a l'expérience qui me démentira. En commission, les relations avec les parlementaires sont d'une nature tout à fait différente. L'échange est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dense. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Là où, en séance publique, le coup de menton emporte la conviction. Non, là c'est différent. Donc, laissons peut-être un petit peu de temps à cette révision pour s'installer. Je crois qu'elle évoluera. Ajoutez à cela, ce qui est mon espoir, qui n'a rien de secret, que j'espère que le cumul vit vraisemblablement ces derniers temps. J'espère que il va se produire sur le cumul ce qui s'est produit il y a quelques années sur le quinquennat. C'est-à-dire, le jour où deux candidats à la présidence de la République s'engageront dessus, ce sera fait. Et j'espère que la prochaine élection présidentielle aura suffisamment d'incertitudes pour que, une fois qu'un candidat se sera engagé à mettre fin au cumul, l'autre candidat se dise qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un handicap dans la campagne en refusant cette mesure populaire et donc s'engagera aussi dessus. J'ai assez bon espoir.
Dernière question, très rapide.
Je voudrais savoir le Shadow Cabinet en Angleterre, comment il a été institutionnalisé. Apparemment, c'est un système beaucoup plus productif que chez nous, où systématiquement on rejette les idées, propositions, même constructives, bonnes, bien élaborées du parti qui n'est pas au pouvoir. Comment les Anglais tolèrent-ils le Shadow Cabinet et pourquoi nous, on ne pourrait pas un peu copier sur eux pour une fois ?
Oui, alors, comme je n'ai pas l'esprit encombré par la connaissance du sujet, je vous répondrai rapidement. Bien sûr. Non, je crois que le Shadow Cabinet, c'est surtout un moyen pour l'opposition d'exister médiatiquement, de dire qu'est-ce qu'elle ferait si elle était au pouvoir, et pour ceux qui y participent, de prendre en compte les véritables enjeux politiques, voyez-vous, quoi. Et c'est une façon aussi de former au sein du parti des futurs cadres dirigeants et de leur donner cette stature. Je crois que c'est essentiellement ça l'objet du Shadow Cabinet. Mais je laisse le professeur Carcassonne.
En une phrase quand même.
En une phrase, avoir un Shadow Cabinet en Grande-Bretagne, ça n'est pas prévu par aucun texte. Ce qui est prévu en Grande-Bretagne, c'est le statut du chef de l'opposition. En France, ce n'est pas possible car il y a plusieurs oppositions, donc il ne peut pas y avoir un chef d'opposition. Pour le reste, le Shadow Cabinet existe pour une raison, un secret que je vais vous révéler, il travaille.
Eh oui.
Ils existent parce que les médias ont pris l'habitude de solliciter, pas toujours d'ailleurs, hein, pas toujours, pas en permanence, ont pris l'habitude de les solliciter. Pourquoi les médias ont-ils pris l'habitude de les solliciter ? Parce qu'ils avaient des choses à dire. Donc, parfois, il y a eu en France des tentatives annoncées, ça s'est fait deux ou trois fois sous la Ve République, de tel ou tel, enfin, généralement, d'un parti d'opposition, qui disait « nous allons créer un contre-gouvernement ». Et on connaissait, il y avait une liste de contre-ministres, et puis ensuite, les contre-ministres s'en contrefichaient, donc le résultat, c'est qu'on n'en entendait plus parler.
Merci. Alors, rendez-vous.